Est-ce qu'on peut bien acclamer pour la gloire de Jésus? Merci d'acclamer pour moi, mais est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Celui qui donne un sens à nos vies et celui qui nous donne la grâce d'être là. Merci, merci de reprendre nos places. Bonjour à tous. Bonjour une fois de plus. Si c'est possible de saluer aussi votre voisin, que ce soit à gauche ou à droite, essayez un peu devant ou derrière de saluer aussi la rangée voisine. Et c'est un bonheur pour nous d'être dans la présence de Dieu, de lire et d'étudier sa parole. Bénissons Dieu pour cette grâce et ce grand privilège qui est une très grande responsabilité. Et merci aussi à notre pasteur pour cette marque de confiance et que le Seigneur le bénisse alors que dans à peu près une heure, il doit prendre part au culte de la borne Bruxelles où il intervient pour partager la parole de Dieu. En ce matin, je nous propose une lecture dans le livre d'Esther. Esther, au chapitre 1, où nous lirons du verset 1 au verset 4, les versets 11 et 12, et puis du verset 16 au verset 22, pour enfin lire Esther chapitre 2, les versets 5 à 8. Je vais rappeler Esther chapitre 1, versets 1 à 4, 11 à 12, 16 à 22, et puis Esther chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 8. Nous commençons par le verset 1 du chapitre 1. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La troisième année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Il ordonna d'amener en sa présence la reine Vasti, avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Verset 16. Memucan répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale, d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle, souligné, qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole des Memucan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Esther, chapitre 2, versets 5, 6, 7 et 8. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin. Il avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Egaï, gardien des femmes. Amen. Merci d'acclamer la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais partager une étude biblique avec nous intitulée « Huit vérités tirées de la vie d'Esther, virgule, reine de Perse ». Huit vérités tirées de la vie d'Esther, reine de Perse. Il y a plusieurs vérités, il y en a tellement, on pourrait peut-être en tirer des centaines, mais nous avons eu à cœur de n'en partager que huit, et voilà pourquoi nous n'avons pas mis d'article défini pour que ça reste que huit vérités parmi plusieurs vérités qui existeraient dans la parole de Dieu et particulièrement dans ce livre consacré à Esther. Esther est un nom populaire, c'est un nom connu. Il y a probablement dans la salle des personnes qui portent ce nom ou qui ont des parents qui portent ce nom. Esther, c'est une femme qui a vécu en un temps bien précis. Et cette histoire de ce livre, si vous ne l'avez jamais lu, je vous le recommande, est remplie de paroles de sagesse pour nous. Esther est une opportunité pour nous de réfléchir, pour ceux qui sont des mentors, ceux qui élèvent les enfants, ceux qui encadrent les plus jeunes, ceux qui encadrent quelqu'un, celui qui récupère un enfant, qui élève un enfant de son frère ou de sa sœur, qu'est-ce qu'il va devenir? Quelle est la chance, entre guillemets, que tu lui donnes? Parce que c'est l'enfant de ton frère. Comment tu le traites? Comment tu la traites? Souvent, lorsqu'on cause avec les gens, on voit cette disparité qu'il y a dans les familles. Les enfants d'eux et les enfants d'eux. Des petites différences. Mais c'est surtout un message sur la responsabilité des leaders, de ceux qui sont petits aujourd'hui, de ceux qui paraissent inutiles aujourd'hui, mais Dieu les a destinés à quelque chose de grand. C'est ça l'histoire d'Esther, une jeune fille orpheline, sans père, sans mère, récupérée par un cousin, élevée par celui-ci qui devient son tuteur, mais il ne savait pas qu'il était en train d'élever la reine de l'Empire perse. L'Empire perse, pour revenir rapidement sur l'histoire avant de prêcher, était l'un des grands empires que ce monde a connu. Le monde de la Bible cite grands empires qui ont dominé le monde, les Mèdes, les Perses, les Grecs et les Romains. Et c'est dans cet ordre-là. Une partie du livre de Daniel présente comment est-ce que les Mèdes sont en train de régner et puis sont renversés par les Perses. La Babylonie ancienne est maintenant déportée vers Suse, qui devient le centre des activités du grand empire perse. Un grand empire qui commence depuis l'Inde et qui vient finir en Éthiopie. Vous ne pouvez pas imaginer comment ces gens ont régné sur le monde. Et ce sont ces personnes-là qui sont les ancêtres de l'Iran actuel. Aujourd'hui, l'Iran fait parler de lui. Pour ceux qui suivent les informations, vous connaissez les détroits. Je savais qu'il y en a. Il y en a qui suivent les informations. Cette bataille n'est pas qu'une bataille de ce que vous voyez aujourd'hui. Ce sont des gens qui se sont battus il y a des siècles. Des siècles passés, les Grecs, Alexandre le Grand, a mis fin à l'empire de ce qui était la Grande Perse. Dans les années 600, une grande conquête va faire que ces gens qui étaient infatigables, les Grecs ont trouvé comment les renverser. Si vous aimez l'histoire, vous pouvez aller lire les livres d'histoire parlent de ces grands empires, les Perses, des grands guerriers, des grands stratèges. Ils avaient réussi à ne jamais déplacer les populations, à ne pas les convertir. Ils gardaient les gens au milieu de leur peuple. Mais les Grecs avaient trouvé, pour ceux qui aiment l'histoire, que la fragilité des Perses, c'est que leurs guerriers ne parlaient pas la même langue. Donc, comme ils avaient des gens qui venaient de plusieurs horizons, la chaîne de commandement était fragile. Donc, des fois, on donnait un ordre à Kiswahili, et là-bas, c'est les moutetés là qui devaient l'appliquer, et l'anglais ne savait pas comment les dire aux flamands. Vous avez tout compris. Et c'était la faiblesse de ce grand empire-là. Malheureusement, où heureusement, dans ce grand empire, il y a un grand roi. Ce grand roi fait une fête de folie. 187 jours de fête. Avez-vous déjà vu ça? 6 mois de fête. Ils avaient des provisions. Est-ce que vous avez déjà fêté dans votre vie? Je suis sûr, si vous n'avez jamais fait 180 jours de fête, mon frère, ma sœur, il n'y a jamais eu de fête chez vous. 187 jours, on ne fait que manger, boire, janvier, février, mars, avril, mai, juin. 6 mois de fête. Quand il finit avec les grands ambassadeurs, les généraux, il dit « Maintenant, je vais fêter avec mon peuple. On ouvre le palais présidentiel. Venez boire. » Vous lirez à la maison, la Bible dit que les pauvres, les simples, étaient invités dans le palais du roi pour boire dans des vases en or. En tout cas, tout le monde avait envie d'entrer dans la maison du roi et boire même de l'eau, parce qu'il est aussi écrit que le roi ne forçait personne à prendre du vin. C'est aussi écrit dans la Bible. Faites ce que vous voulez. Mais le 7e jour de la fête avec le peuple, le roi va décider d'une chose. Révéler la beauté de sa femme, la reine Vasti. J'entends souvent les gens parler de cette dame avec beaucoup de colère. Souvent dans les réunions des dames, on parle d'elle. Vasti, ne soyez pas comme Vasti. Vasti, une grande reine, une belle femme. La Bible dit qu'elle était belle de figure. Au-delà d'être juste une explication, une présentation de ce qu'elle était extérieurement, la Bible montre aussi la limite de sa beauté. Nous en parlerons parmi les vérités. Que la beauté n'est pas que physique et que la beauté ne doit pas s'arrêter qu'au corps extérieur. Elle avait une belle figure, mais comment était son cœur? Quelles étaient ses valeurs? Et la reine Vasti, au lieu de venir et on va dire présenter sa beauté au roi et à ses convives, va refuser l'ordre du roi, ce qui était quelque chose d'inacceptable. Ainsi, les princes du royaume vont décider que cette dame devait être mise de côté parce qu'elle donne une mauvaise éducation à tout l'empire. J'aimerais dire déjà au début de mon message, vous qui êtes élevés, vous qui aspirez à être élevés, vous qui occupez des positions élevées, que ce soit dans l'entreprise, soit dans le pays, que ce soit dans l'église, sachez que vous êtes observés. Vous qui êtes élevés, vous êtes observés. Vous qui occupez les premiers rangs, vous êtes observés. Vous qui vous mettez souvent devant, les gens ont le regard sur vous et sur vos maisons. Les gens veulent savoir si vous aimez vraiment votre femme. Les gens veulent voir comment vous élevez vos enfants. Les gens veulent voir si vous aimez vraiment votre mari. Les gens veulent savoir si ce que vous nous présentez, c'est une façade ou bien c'est ce que vous êtes réellement. Vous qui êtes élevés, vous êtes observés. C'est pour ça que les princes se sont réunis, ils ont dit non, roi, c'est dangereux. Quelque chose qui commence dans la maison de la personne élevée va atteindre tout le royaume. Et c'est souvent cela la règle. Le leadership va influencer tout le peuple. Si ceux qui sont élevés font des bonnes choses, ces bonnes choses vont se répercuter. Et si ceux qui sont élevés font des mauvaises choses, ces mauvaises choses vont se... Et la même chose dans l'église, lorsque le péché va commencer ici sous cette chair, ceux qui prêchent l'évangile, ceux qui conduisent le culte, le péché qui commence ici sous cette chair va finir par aller dans toute l'église. Voilà pourquoi ceux qui sont élevés, ceux que Dieu place en position de responsabilité, ils ont le devoir de bien se conduire. C'est aussi cela le message du livre d'Esther. Esther est parmi les rares livres de la Bible, il n'y en a que deux, qui portent le nom de femme. Esther et Ruth. Tous les 66 livres qui restent, je n'ai pas dit ça porte le nom des hommes. Parce qu'il y a Corinthiens, hein? Il y a pas, Apocalypse, c'est pas un nom d'homme. Mais tous les restes ne portent pas le nom de femme. Donc la Bible a quand même consacré deux noms de livres au nom de Esther. Ce n'est pas un sujet pour les femmes, parce que beaucoup d'hommes, malheureusement, quand ils regardent le livre d'Esther, ils disent « Ah, mais non, ça c'est un livre pour les sœurs. » Non, c'est un livre de la Bible. inspiré autant par l'Esprit de Dieu que les Apocalypse, Jérémie, Ézéchiel. Esther est un livre inspiré par le Saint-Esprit pour parler à nos cœurs. Alléluia. J'aimerais rappeler deux, trois choses fondamentales pour ne pas perdre en temps. Quelques rappels importants sur le livre d'Esther avant d'aller dans les vérités. C'est que la première des choses, parce que j'ai proposé une étude biblique, donc je vais vous donner cela, ça va rester dans les notes. Le nom de Dieu n'est jamais mentionné une seule fois dans tout le livre d'Esther. C'est la première des choses qui trouble les théologiens, parce que d'année en année, les gens essayaient de dire, mais comment il n'y a pas le nom de Dieu dans ces livres? C'est que ces livres n'est pas inspiré. Il y a des mouvements qui ont commencé à dire, non, on devrait supprimer ce livre. Mais ils se rendaient compte qu'à l'intérieur de ce livre, il y avait une chose fondamentale, c'est la préservation du peuple juif. Esther, son grand rôle était de faire que le peuple juif ne puisse pas être anéanti. Parce que lorsque vous lisez cette histoire, il était question que le peuple juif soit anéanti. Et si le peuple juif est anéanti, le Messie allait venir comment? Il y avait des promesses de Dieu sur le Messie qui devaient être d'une certaine descendance. Et cette descendance devait être préservée. Voilà pourquoi Esther a un rôle très important. Au-delà de préserver juste un peuple, Esther joue un grand rôle dans ce que le Messie, qui naîtra des siècles après, devra avoir comme rôle à jouer. Amen. Deuxième chose, le nom hébreu de la reine Esther est Hadassa, H-A-D-A-S-S-A. Parce que le nom Esther, au fait, c'est dans la langue des Farsis, des Persans. Esther, quand on dit Esther, ce n'est pas en hébreu. Esther, c'est dans la langue, on va dire, des ancêtres des Iraniens, pour parler dans un langage courant. Donc, quand ils disent Esther, eux, ils savent ce qu'ils veulent dire. Ils veulent dire étoile, comme on dit en anglais, Estar. Alléluia. Dans votre langue, on dit quoi? L'étoile. Bon, dites seulement ce que vous avez dit là. Je voulais juste que vous fassiez cet exercice. C'est ça, au fait, le livre d'Esther. Le livre d'Esther ne présente pas le nom de Dieu, mais le livre d'Esther présente une femme qui brille comme une étoile et qui brille pour Dieu. Alléluia. Troisième de choses, Mardoché, qui est le cousin, tantôt appelé l'oncle, à cause du fait qu'il avait adopté sa cousine qui est devenue sa fille. Mardoché fut la première personne dans l'histoire à être appelé juif. On n'avait jamais, lorsque vous lisez la Bible depuis Genèse, on n'a jamais cité le nom, on dit jamais juif. Pour la première fois qu'on dit juif, et cela s'applique à Mardoché. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les théologiens juifs aiment ce livre. Parce que on va dire que ça renvoie même à cette religion. Le pasteur l'a déjà prêché ici, qu'il y a une différence entre un hébreu, un juif, un israélien, un israélite, parce que l'israélien, c'est celui qui a le passeport d'Israël. L'israélite, c'est celui qui commence après les patriarches. Ce sont des gens qui s'est promenés. L'hébreu, c'est la langue hébraïque, mais c'est aussi les anciens avant les promesses. Et les juifs, c'est beaucoup plus ceux-là qui ont pris la foi, la religion, qui croient au Dieu des juifs. On peut être israélien sans être juif, on peut être juif sans être israélien, mais là, je sais que vous êtes perdus. Il y a des juifs, mais qui sont allemands, il y a des juifs qui sont américains, il y a des juifs qui sont belges. Mais il y a des israéliens aussi qui n'ont pas choisi la foi juive. Là, on a compris. Mais notez que Mardoché, c'est la personne principale à partir de laquelle on commence à dire juif. Et jusqu'aujourd'hui, quand nous disons juif, Bayouda, les juifs, le premier à avoir apporté ce nom, la personne à qui on donne ce titre, c'est Mardoché. Je vais prendre la quatrième chose rapidement, juste pour dire que Esther a joué un rôle important par son jeûne. Elle a jeûné et prié avant de renverser une loi contre l'extermination de juifs. Depuis donc, les juifs célèbrent cette fête qu'on appelle la fête de Pourim, la fête du Pourim, qui est un jour de jeûne en mémoire du jeûne d'Esther. Donc, depuis des générations jusqu'à aujourd'hui, les Juifs célèbrent cette fête-là dans leur religion parce qu'ils considèrent que cette dame, Esther, avait joué un grand rôle. Passons rapidement aux 8 vérités que nous allons partager en quelques minutes, que nous tirons dans le livre d'Esther. Beaucoup de vérités, il y en a plusieurs. Je n'ai pas voulu prendre plusieurs textes. Je vais rester dans les textes que j'ai lus, j'en rajouterai quelques-uns, principalement d'Esther, et je sortirai dans un ou deux livres pour ce faire. Première vérité, quand vous regardez le livre d'Esther, c'est que nos origines ne déterminent pas nécessairement notre avenir. Alléluia. Nos origines ne déterminent pas nécessairement notre avenir. Lorsque vous regardez cette jeune fille fragile, frêle, elle, on va dire, sur le plan humain, elle n'a plus d'espoir, elle n'a plus de parents. Vous avez pitié d'elle, vous avez l'impression que c'en est fini pour elle. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu a des plans aussi pour les orphelins. Dieu a des plans pour les personnes oubliées. Dieu a des plans pour ceux qui n'ont plus personne. Dieu a des plans pour ceux qui sont abandonnés. Dieu a des plans pour ceux qui semblent être limités. Dieu a des plans pour ceux qui n'ont plus rien, personne, pas d'argent, pas de compte en banque. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu est le Dieu des personnes abandonnées. Dieu est le Dieu des personnes qui sont des fois même oubliées. Alors, lorsque nous regardons Esther, nous comprenons que nous ne devons jamais nous laisser limiter par nos origines. Non, moi je viens d'une famille faible. Moi je viens d'une famille pauvre. Dans la Bible, il y a l'histoire d'un homme dans les livres des juges. On dit que c'était l'enfant d'une prostituée. Il s'appelait Jephté. Un enfant des prostituées, mais ce monsieur-là est devenu juge en Israël. Un jour, on est allé le chercher. Parce que le plus important dans la vie, ce n'est pas d'où vous venez, ce n'est pas par quoi vous êtes passé seulement, mais c'est où est-ce que Dieu veut vous emmener. Où est-ce que Dieu vous emmène? Où est votre histoire? Votre histoire, ça va où? Alors ne vous arrêtez pas seulement à ce que vous avez perdu, ne vous arrêtez pas seulement à pleurnicher. Ne vous arrêtez pas à continuer à faire le deuil, un deuil interminable, et j'en parlerai plus loin. Nos origines ne déterminent pas nécessairement notre avenir. Des fois, vous pouvez regarder quelqu'un de petit, quelqu'un qui semble vraiment n'avoir rien. Mais Dieu, quand il regarde cette personne, il voit quelqu'un de grand. Joseph est l'une de mes figures préférées parce que c'est un garçon qui est entré dans le pays d'Égypte comme une marchandise. Joseph était vendu. Et l'histoire nous dit que les esclaves étaient vendus sans habits. Donc vous imaginez, le jour où le monsieur entrait en Égypte, il n'avait aucun habit sur lui. Mais l'Égypte ne savait pas qu'il recevait son prince pour quelques années. Il suffisait de quelques années que ce monsieur qui venait de manière dévêtue, c'était le prince d'Égypte. C'était le prince d'Égypte. C'était le roi, le vice-roi en Égypte. Mais des fois, lorsque Dieu, le Dieu des destinées, commence à faire quelque chose en nous, nous nous alarmons, nous regardons seulement nos origines. Nous regardons à notre tribu, nous regardons des fois à notre condition. Je suis veuf, je suis veuve, je n'ai plus de mari, je n'ai plus de femme, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de parents. Mon frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce que tu es aujourd'hui ne te condamne pas à avoir un avenir triste. Parce que Dieu peut partir de rien pour tout faire. Dieu peut partir de rien pour atteindre sa destinée. Le Dieu des destinées n'a besoin que de sa parole, qui est sa matière première, à partir de laquelle il crée les choses. Et si tu as une parole de Dieu, accroche-toi à cela. Accroche-toi à cela. Et ne jugeons pas les gens à cause des petites conditions qu'ils présentent aujourd'hui. C'est ça le sous-point dans les origines qui ne détermine pas nécessairement notre avenir. Donc, quand tu es en face de quelqu'un ou à côté de quelqu'un qui semble n'avoir rien, c'est que cette personne peut devenir quelqu'un de grand. Des grands, je dis bien des grands. Il y a des grands hommes qui ont dirigé ce pays, mais qui étaient des cuisiniers. Il y a des grands hommes qui ont eu à diriger ce pays. Ils ont travaillé comme jardiniers. Quand vous suivez leur histoire, oh, j'étais jardinier dans telle maison. Je ne citerai pas le nom d'un monsieur qui a dirigé une entreprise de ce pays. Il était plombier. Il était engagé dans l'entreprise comme plombier. J'ai dit bien plombier. Mais il est devenu directeur général. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Faisons confiance à Dieu. Arrêtons de regarder qu'à nos origines, à notre passé. Dieu continue à écrire son livre et il peut l'écrire avec toi. Deuxième vérité que j'aimerais partager en ce matin, c'est qu'il nous faut chercher la grâce de Dieu avant de trouver la grâce des hommes. Ou je peux le dire autrement, chercher la grâce de Dieu avant de trouver les faveurs des hommes. Esther, justement, nous montre l'image de cette jeune fille qui a appris à trouver la grâce auprès de Dieu. Celui qui trouve la grâce auprès de Dieu finira par trouver la faveur des hommes. Esther, chapitre 2, les versets 11, 15, 17, 18, vous pourrez lire à la maison, je vais lire quelques-uns des versets. Verset 11, chapitre 2, verset 11. « Chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Son oncle venait vérifier qu'elle avait la faveur de son oncle. Il continuait à vérifier « Comment va mon enfant ?» Verset 15. « Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hegai, eunuque du roi et gardien des femmes. » La Bible ajoute, « Esther trouvait grâce aux yeux de ceux qui la voyaient. » Amen. Verset 17, « Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. » Si tu obtiens la grâce de Dieu, tu auras la faveur des hommes. Ne cherche pas toujours la faveur des hommes auprès des hommes. Il y a un meilleur raccourci. Si tu veux atteindre la faveur des hommes, prends le chemin de la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu. Confie-toi sur la grâce de Dieu. Cherche la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a un grand, il y a quelqu'un qui doit décider sur ton sort, qui doit signer un document pour toi? Ne cherche pas à faire des calculs humains pour atteindre sa faveur. Prends le chemin de la grâce. C'est le meilleur raccourci pour avoir la faveur des hommes. Alléluia. Esther nous apprend que si vous avez la grâce de Dieu, Dieu lui-même commence à ouvrir les portes devant de vous. Les gens qui réfutent le livre d'Esther, justement, la théologie qui refuse l'inspiration du livre d'Esther, ils disent que non, ce livre est trop parfait. C'est comme si on avait déjà placé le poteau, on a mis les ballons à l'intérieur et puis on fait semblant que les joueurs tirent. Frère, c'est l'incrédulité. Vous voulez pas croire qu'il y a un Dieu au ciel qui, lorsqu'il donne la grâce à quelqu'un, vous avez l'impression que cette personne triche. Lorsque quelqu'un a la grâce de Dieu, vous avez l'impression que Dieu est en train de faire une analyse en défavorisant les autres et en le favorisant. Vous avez l'impression que c'est une injustice. Des fois, la grâce passe pour une injustice. La grâce passe pour comme, oh non, mais l'arbitre est de leur côté. Mais c'est la grâce seulement. Quand la grâce arrive, vous avez l'impression que l'arbitre est un 12e joueur. Si c'est le temps de la saison de la grâce pour toi, profites-en, saisis-toi de la grâce et entre dans la maison du roi. J'espère que je prêche à quelqu'un ce matin. Entre dans la maison du roi, mais cherche la grâce de Dieu. Demande à Dieu sa grâce et marche de manière à conserver cette grâce. Mardoché, très certainement, avait joué ce rôle-là. Soit les parents d'Esther eux-mêmes, soit Mardoché qui l'a recueilli, qui était fondé sur les valeurs de la foi hébraïque à ce moment-là. Il a transmis ses valeurs à la jeune fille. Quand la jeune fille va dans le harem, il n'y a plus d'oncle, il n'y a plus de parents, parce qu'il y a un moment où les enfants que nous cajolons aujourd'hui, à qui nous donnons de faire des prières, d'aller à l'école du dimanche, il y a un moment où ces enfants ne seront plus avec nous, chers parents. Il y a un moment où ce que tu avais mis dans le cœur de ton enfant, on saura c'est quoi. Il y a un moment, j'aime toujours dire, il y a un moment où on va voir quel parent avait donné le pain à son enfant pour aller écouter l'enseignement de Jésus. Les parents qui n'avaient rien donné à leurs enfants, au moment où les gens ont faim, Jésus ne prendra rien. Mais s'il y a une maman qui avait donné le pain à son enfant, cet enfant-là peut nourrir une foule. À partir du repas d'un garçon, une foule a mangé. Parce que une maman, j'ai dit bien une maman, avant qu'il parte, avait dit, André, viens, prends les poissons, prends les pains, mets dans les sacs. Que Dieu bénisse les parents qui mettent quelque chose dans les sacs de l'avenir, de la destinée de leurs enfants, qui donnent les valeurs chrétiennes, qui leur transmettent les valeurs de la foi, pour que l'enfant ne suive pas seulement le Dieu de papa et de maman, mais que le Dieu de papa, le Dieu de maman devienne le Dieu de l'enfant. Et c'est la meilleure transmission de la foi. Quand Esther rentre dans le palais, l'oncle n'est plus là, mais le Dieu de l'oncle est devenu le Dieu d'Esther. Le Dieu d'Esther, ce n'était plus seulement le Dieu de Mardoché. Elle avait développé sa propre relation avec Dieu. Ah, mon frère, ma sœur, cherche la grâce. Trouve la grâce de Dieu. Ne néglige jamais de transmettre les valeurs aux enfants. Je pensais que tu dirais amen. Donne-leur quelque chose. Demain, quand ils seront dehors, tu ne seras pas là, mais le pain sera là. Le pain que tu as mis dans le sac, ça sera là. Amen. Troisième vérité. Je l'ai intitulé « Être beau ». Ah oui, oui. Parce qu'il fallait quand même on parle de beauté. On a mentionné la beauté plusieurs fois. Donc, il faut quand même qu'on parle de beauté. Être beau, être bon, être bien. Être beau, être bon, B-O-N, et être bien. Ce qu'on appelle les trois B. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire les trois B? Le bon, le bien et le beau. Est-ce que vous pouvez m'aider à demander à votre voisin s'il a les trois B? C'est là où ça devient sérieux. Est-ce que vous avez les trois B? Il y a des gens qui sont beaux, mais qui ne sont pas bons. Il y a des gens qui sont beaux, mais qui ne sont pas bien. Il y a des gens qui sont beaux, ils sont bons, ils sont bien. Alléluia! Et c'est ça aussi une des vérités avec le livre d'Esther. On nous présente une première femme. L'histoire commence avec une grande dame, Vasti. Elle est citée comme étant belle. Ne vous en faites pas. Les Perses ne jouaient pas avec la figure de la beauté. Ils ne jouaient pas avec. Les concours des Miss, ça commençait là-bas. Ah oui, je vous dis la vérité. Ça se passait en compétition. Donc pour que cette dame soit là, premier critère, la femme du roi doit être la plus belle femme du royaume. Et c'est pas seulement un royaume, c'est un empire, c'est un ensemble. C'est-à-dire, on va chercher depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, c'est-à-dire en Afrique. Concours mondial. Et Vasti avait gagné. Mais Vasti avait la beauté extérieure. Vasti n'avait pas apparemment des valeurs intérieures. Parce que toute beauté extérieure qui n'est pas soutenue par des valeurs intérieures, ça n'ira pas loin. Surtout toi, mon frère, qui est en train de chercher une femme, je m'adresse à toi, je fais la pause quelques minutes pour parler à mon frère. Tu cherches une belle femme. Ah, c'est bien, tu mangeras la beauté. La beauté préparera pour toi. La beauté sera gentille avec toi, j'espère. Mais je crois qu'on peut trouver une femme belle, mais qui a aussi un bon cœur. Les femmes qui ont un bon cœur et qui sont belles peuvent dire amen. Ah, c'est bien. Toutes les sœurs ont dit amen. De toutes les façons, il n'y a que des belles femmes en ce lieu. Alléluia. On peut être beau et avoir un bon cœur. Il fut un temps, nous, quand on grandissait, on disait toujours que les belles femmes étaient des sorcières. Je ne sais pas pourquoi. Les gens sont mauvais, je vous dis la vérité. Les gens sont vraiment mauvais. Quand une femme était belle, on la traitait déjà de sorcière. On disait, si elle est belle, et surtout, si elle est de telle province, si elle est de tel teint, je ne vais pas dire. Mais ça, c'est gratuit. Mais quelqu'un peut être beau, être bon et être aussi bien. Quelqu'un peut avoir des bonnes valeurs spirituelles, savoir rester avec les autres, mais aussi accomplir des bonnes choses. Il y a des belles femmes qui sont arrogantes. Leur beauté les rend arrogantes. Il y a des beaux hommes, parce qu'il n'y a pas que la beauté féminine, la beauté aussi masculine. Il y a des hommes qui, à cause de leur beauté, ils font n'importe quoi. Mais au-delà de la beauté, j'aimerais parler de quelque chose, parce que la beauté, c'est ce que vous avez pour lequel vous n'avez rien fait. Personne n'a payé pour naître beau. Personne n'a payé pour avoir le teint qu'il a. Personne n'a choisi la forme de sa tête. Personne n'a choisi la forme de ses yeux. Personne n'a choisi la forme de son nez. Voilà pourquoi moi je suis contre les élections des Miss. Parce que j'ai dit qu'on ne fait pas les histoires des Miss à l'église. On ne fait pas non plus les histoires des Miss. Parce que pourquoi faire la compétition sur quelque chose que je n'ai rien mérité? Alléluia, si vous êtes d'accord avec moi. Mais même si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas un souci. Pourquoi faire des compétitions sur des choses pour lesquelles vous n'avez rien fait? Tu es né avec cette taille-là parce que tes ancêtres avaient telle morphologie. Bon, tu as hérité de la morphologie de tes ancêtres. Tu as un peu le nez de Tata Moissy, la bouche de Coco, Marie-Louise, les pieds de Tata Moissy, Andrea. Voilà, et c'est ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Mais maintenant, pourquoi tu t'en vantes? Pourquoi les hommes sont orgueilleux pour les choses qu'ils ont reçues par la grâce de Dieu, les choses pour lesquelles ils ne se sont pas battus? C'est Dieu qui t'a donné cette position que tu as. C'est Dieu qui t'a donné ce que tu as là, l'intelligence que tu as. Tu as fait quoi pour n'être intelligent? C'est la grâce de Dieu. Un verset de la Bible dit, dans Proverbes chapitre 31 et le verset 30, j'aimerais lire ce verset. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Cette parole est pour nous les frères et pour nous les sœurs. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Je précise ici, lorsque la Bible parle de grâce trompeuse, elle ne parle pas de la grâce du salut des Éphésiens, non. La grâce ici, c'est dans le contexte du verset qui parle de la femme vertueuse. La femme vertueuse a une grâce, c'est-à-dire un charme. Voilà. Le mot ici peut être traduit par le mot charme. Le charme est trompeur. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Maman, vous qui êtes belle, papa, vous qui vous considérez beau, vous qui vous vantez pour les choses pour lesquelles vous n'avez rien fait pour les avoir à votre naissance, c'est celui qui craint l'Éternel qui fait la meilleure des choses. La meilleure des choses, c'est de craindre Dieu. Si vous craignez Dieu, c'est vous qui serez célébré. C'est vous qui serez loué. Alléluia. Soyez beau, soyez bon et soyez aussi. Et c'est ce qui a manqué à la dame Vasti. Quatrième leçon. Le courage malgré la peur et la foi malgré l'épreuve. Je ne serai pas long sur ce point. Je vais le dire rapidement en lisant Esther chapitre 4, les versets 4, 5, 8, 9 et 10. La Bible dit que les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hatak, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Elle chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était ou d'où cela venait. Verset 8. Il lui donna aussi une copie de l'édite publiée dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez les rois pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée. La suite, vous continuerez à la maison. Au fait, il y a quelqu'un qui vient de décider. Au chapitre 3, il y a un personnage qui entre. Il s'appelle Aman. Aman décide d'être celui qu'on loue, qu'on adore. Quand il entre dans la pièce, on doit se courber. Vous savez, les gens aiment beaucoup l'autorité. J'ai un ami qui a été nommé à des fonctions il y a quelques années. Il me raconte, il dit, Roger, tu sais, ces choses-là, des gens qui se mettent debout dans la réunion, j'ai pensé que c'était rien, mais j'ai vu que à chaque fois que j'entrais dans la pièce, tout le monde s'est levé. Et puis un jour, je suis entré, un gars n'était pas debout. Je me suis fâché. Moi, j'ai dit, tu t'es fâché, pourquoi? Il dit, mais tout le monde s'est levé. Et puis lui-même me dit, mon cher, tu sais que le pouvoir là, ça peut te déformer. Le pouvoir, ça peut te détruire. C'est ça aussi l'enseignement d'Esther. Le pouvoir. Quand tu es habitué, on t'ouvre la porte. Tu ne touches plus la portière. Quand tu es on ferme, tu ne t'en occupes pas. Tu arrives dans la porte de ton bureau. Quelle est la dernière fois que tu as touché le poignet? Peut-être de ta chambre. Hein? C'est le seul poignet que tu touches, de l'intérieur. Parce que de l'extérieur, le garde qui est devant, c'est aussi lui qui ouvre. Gloire à Dieu pour toi. Mais que ça ne détruise pas ton cœur. Le monsieur avait été habitué aux courbettes, mais Mardochée estimait que moi, je suis un juif, un croyant. J'ai la foi du Dieu d'Israël, de Judas. Je ne peux pas me courber devant un homme. Alors, il est devenu la cible de l'attaque. Non seulement lui, tout le peuple auquel il appartenait. Alors, Aman va décider qu'on puisse les tuer tous, qu'on puisse exterminer les Juifs. C'est pour ça que je disais à l'introduction, le rôle d'Esther, c'est de préserver ce peuple. Dieu place Esther dans cette position auprès du roi pour préserver le peuple juif. Et Esther devait avoir le courage. C'est pour ça que j'ai intitulé ce point. Le courage malgré la peur. Esther tremble. Esther se dit, mais je ne peux pas entrer chez le roi si je ne suis pas dans le programme. Tu ne peux pas quitter comme ça, tu viens. Le roi ne vivait pas avec la femme dans le même palais. Le roi vivait de son côté, les femmes vivaient dans un autre. C'est quand le roi avait besoin, on disait, appelez-moi tel. Maintenant, Esther se dit, comment je vais faire? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Même les gens les plus courageux ont peur. Oui, c'est une bonne nouvelle. Même les gens les plus courageux, il leur arrive d'avoir peur, de commencer à hésiter. La peur que tu as d'aller vers ce projet, d'aller vivre à l'étranger, de commencer ces chantiers. Mon frère, c'est humain d'avoir peur, mais compte sur Dieu. Même les vaillants commandants, il y a un moment, ils ont peur. Esther a eu le courage, malgré la peur. Demande à Dieu, Seigneur, que je reste courageux. Alléluia. Cinquième vérité. Dans une position d'élévation, il faut se souvenir d'où l'on vient et il faut rester répréhensible. Dans une position d'élévation, aujourd'hui peut-être vous suivez cet enseignement, vous êtes assis dans la foule, mais je ne sais pas ce que vous serez demain. C'est à vous que je m'adresse. Future excellence, à qui on ouvrira les portes, futur responsable d'église, futur responsable d'entreprise, de ministère, d'entreprise privée, publique, homme d'affaires, multimillionnaire, dans une position d'élévation. Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi d'où tu viens. Esther s'est souvenue que lorsque je n'étais rien, il y a un homme qui m'a accueilli. Et vous allez remarquer que Esther continuait à l'écouter. Je vous propose de lire à la maison, peut-être même quand vous aurez le temps, Esther chapitre 2, le verset 20. La Bible dit, Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu. La fin du verset dit, Elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Elle est devenue élevée, mais elle se souvient de l'autorité et des conseils des gens qui l'ont amenée là où elle est arrivée. Toi, qu'est-ce que tu as fait de papa là qui t'avait pris au village? Celui-là qui t'a pris lorsque ton père est décédé. Celui-là qui t'a pris lorsque vous n'avez plus rien et qui a décidé de t'élever. Je connais même des personnes qui ont été recueillies par les voisins. Je dis bien les voisins. Un voisin avait beaucoup aimé les parents. Les parents sont morts dans un accident. Il a dit, est-ce que vous pouvez me donner le cadet? Je vais l'élever. Les gens ont eu pitié de toi quand tu n'étais rien. Mais quand tu deviens quelque chose, tu penses à eux. C'est ça qu'Esther nous rappelle aujourd'hui. Est-ce que tu penses aux gens qui ont fait de toi ce que tu es devenu? La chaise sur laquelle tu t'assois aujourd'hui, est-ce que tu penses aux gens qui ont souffert, qui ont fourni des efforts pour que tu arrives là où tu es aujourd'hui? Est-ce que tu penses à d'où tu viens? Est-ce que tu penses encore à ceux qu'ils mangent ou ils mangent pas? Ah oui, ils sont tous devenus des sorciers. Ah oui, oui, oui. Quand tu étais petit, tu pouvais pas te manger. C'est maintenant comme tu es millionnaire qui te boufferait. C'est ça. C'est ça maintenant le mauvais message qui est prêché. J'écoutais il y a quelques jours d'ici, quelqu'un qui était en train de prêcher, je passais, qui était en train de prêcher, il disait non, tous ceux qui sont en train d'être bloqués, j'ai pris qu'ils meurent. Et les gens criaient, amen, amen, qui meurt dans un accident, amen. Moi, j'appelle cela-là de la sorcellerie dans l'église. Il n'y a aucun fondement biblique pour que dans le combat spirituel, nous commençons à demander la mort de nos ennemis. La Bible dit que nous, ce que nous devons faire, c'est de demander la grâce de Dieu sur eux. Mais la Bible insiste que Dieu lui-même va tourner les bénédictions en quoi? En charbon ardent. Ce n'est pas toi qui envoies les charbons ardents. Toi et moi, nous envoyons la bénédiction. Dieu transforme en charbon ardent et c'est ça l'évangile de Jésus. Maintenant, ce que je ne comprends pas, je pose toujours cette question. Quand tu étais là en deuxième primaire, ils ne t'ont pas mangé. C'est maintenant qu'ils sont devenus des sorciers. Il y en a qui disent, non, je ne peux même pas leur donner mon argent. C'est des sorciers. Ah, mon frère, souviens-toi d'où tu viens. Aujourd'hui, tu es grand, c'est facile. Que tout le monde te voit, la grande reine Esther. Mais Esther s'est souvenue, je viens de quelque part. Le brigand qui était à côté de Jésus à la croix a fait une requête que j'aime beaucoup dans Luc chapitre 23. Vous souvenez de ces versets, n'est-ce pas? Il lui a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Souvent, il y a des gens, quand c'est son tour de régner, il ne se souvient plus des personnes. Quand tu seras dans la gloire, souviens-toi de ceux-là qui étaient avec toi, celui qui était ton voisin à la croix. Toi, tu es dans la croix numéro 1, lui est à la croix numéro 2, c'était ton voisin de croix. Souviens-toi de celui avec qui vous faisiez les pieds pour aller au campus. Souviens-toi de celui avec qui vous mangez la bouillie et vous dormez avec. Souviens-toi de ceux-là avec qui vous mangez rien. J'ai dit bien rien, vous dormez avec rien. Je me souviens des moments au campus. J'ai connu une sauce au campus. Cette sauce-là, c'était l'eau, le maïs, l'huile et le sel. Sauce. Sauce, je vous dis, c'est la sauce. Vous n'avez aucune idée. On prie aussi pour ça. Ah, mais j'ai béni Dieu pour les gens avec qui j'ai mangé ces gens de foufous-là. Un foufou avec le foufou seulement. Foufou avec le foufou déguisé. Ah, mon Dieu. Souviens-toi des gens qui étaient tes voisins. Tes voisins. Tes voisins. Tes voisins. Comment toi, tu es dans la gloire là-bas, mais Mardoché n'est rien. Ah, comment tu es, Esther? Esther, souviens-toi des gens qui ont fait que tu arrives là. Alléluia. Mais surtout, reste quelqu'un qu'on peut reprendre. Parce que le problème avec l'autorité, tu as beaucoup plus de fanatiques. L'autorité crée toujours des fanatiques. Une fois que vous êtes dans une position d'autorité, vous avez les gens qui commencent à acclamer à tout moment. Même quand vous faites des bêtises. Ah! Et c'est ce qui perd les cœurs des grands. Même quand il fait quelque chose de mauvais, ah, en tout cas, tu es le meilleur. On passe même à la télé. J'aime beaucoup mon pays, un pays magnifique. J'ai vu ça à Kinshasa, je pensais que c'était qu'ici. Mais une fois, je vais dans une province, je devais tenir un séminaire, je trouve une grosse banderole. Quelqu'un qui écrit des choses du genre, les habitants de tel quartier félicitent telle personne. Ah! J'ai dit, mon Dieu, ces histoires sont partout. Nous sommes facilement en train d'entraîner nos leaders dans l'erreur parce que nous ne les reprenons pas quand ils font quelque chose de mal. Mais le problème, ce n'est pas seulement ceux qui sont dirigés. Vous qui dirigez, est-ce que vous avez quelqu'un qui peut vous dire « ça vous fait mal » Est-ce que tu as gardé un mardoché, Esther? Est-ce que tu as toujours un mardoché qui peut te parler? Ou bien tu n'aimes que les gens qui te louent? Ceux-là qui te disent « non, chef, ici tu peux aller à gauche. » Tu ne préfères pas les garder. Toi, tu aimes seulement les gens qui veulent que tu ailles à droite. Fais attention, mon frère. Peut-être aujourd'hui, ce que je te dis, ça n'a pas de valeur. Mais demain, tu pourras t'en servir. La Bible raconte dans 2 Chroniques, chapitre 26. Je vais lire 2 Chroniques 26, l'histoire d'un roi, Ozias, versets 14 à 16. Ozias fut merveilleusement contenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Souligné dans votre Bible, verset 14. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre et il pécha contre l'Éternel. Lorsqu'il est devenu grand, lorsqu'il est devenu puissant, son cœur va le soulever contre Dieu. Mon frère, ma sœur, que la grandeur ne te fasse pas oublier Dieu. Ne deviens jamais quelqu'un à qui on ne peut jamais faire des remarques. Que tu sois pasteur, que tu sois responsable d'entreprise, que tu sois dans n'importe quelle position, conserve au moins toujours une personne. J'ai dit au moins une qui peut te parler durement et te dire, Roger, ici on ne fait pas ça. Alléluia. Mon sixième point est intitulé mission ou position. Pour dire que le plus important, ce n'est pas seulement d'avoir une position. Derrière la position que tu as, Dieu t'a donné une mission. Beaucoup de gens se battent pour les positions, mais ils ne réalisent pas la mission qu'ils ont dans cette position. Demande à Dieu de te révéler. Quand j'occupe cette position, quelle est ma mission? Amen. Je vais citer juste les points qui restent. Mon septième point est mentionné, ne jamais abandonner la parole, le jeûne et la prière. Ne jamais abandonner la parole, le jeûne, la prière. Parce qu'Esther 4, 15 à 17 nous montre comment est-ce que Esther, reine, a fait un jeûne de 3 jours. Elle était reine dans le grand palais, mais elle n'a pas oublié que la parole et la pratique religieuse de l'époque leur recommandaient d'aller dans la prière et de pratiquer le jeûne. Que la position que tu auras ou que tu as aujourd'hui ne te fasse pas oublier ces choses. Amen. Et je conclue par le huitième point. Nous pouvons avoir un impact sur plusieurs générations. Nous pouvons avoir un impact sur plusieurs générations. Esther est choisie. Esther est présentée. Esther devient la reine de l'Empire perse. Mais ce qu'elle a comme rôle à jouer, ça va continuer même après sa mort. Est-ce que tu réalises que la position que tu occupes, ça peut influencer plusieurs générations? Alléluia. Les gens auront du courant chez eux parce que toi, tu dirigeais la SNEL. Tu vas résoudre les problèmes d'assainissement. Tu vas résoudre les problèmes, je ne sais pas, d'insécurité. Tu vas résoudre des problèmes à quelque niveau que ce soit. Tu peux le faire aujourd'hui, mais tu peux le faire sous plusieurs générations. Et Dieu veut passer par toi. Amen. J'aimerais que nous puissions couper nos têtes et prier un moment.